Vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous un lit, mais on la met sur un chandelier et elle brille pour que tous ceux de la maison et de l'extérieur voient cette lumière. Oui, c'est un des textes les plus connus probablement de l'Évangile, et toutes les personnes que je reçois pour des mariages ou des baptêmes, si on leur demande de citer un texte dont ils se souviennent, bien souvent, c'est celui-là. Et souvent c'est le seul peut-être que retiennent certains catéchumènes. Et peut-être aussi c'est parce que c'est au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et donc les moins persévérants qui veulent lire l'évangile arrivent au moins au chapitre 5 et le trouvent, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est un beau texte, je ne peux pas dire le contraire. Il est agréable et positif. On nous traite de lumière et c'est bien agréable. Ça n'est pas si souvent. En général, on nous dit plutôt le contraire. Là, on nous dit « vous êtes des lumières ». Donc, on aime l'entendre. On aime aussi parce qu'il est, il nous dit que nous avons là une responsabilité d'apporter quelque chose au monde et que donc nous devons être dans ce monde comme des lumières. Pour apporter quoi ? Eh bien, pour apporter de la lumière, c'est-à-dire de la joie, de la confiance, peut-être surtout de la liberté. Donc on ne nous demande pas de tenir le monde sous un joug, sous une pression intégriste ou autre, mais d'être source de lumière, et ça aussi, on aime bien ça. Nous ne devons donc pas contraindre les gens, mais les éclairer, les aider à ouvrir leurs possibles, aider ceux que nous rencontrons à comprendre et à voir. Tout cela nous plaît assez. Mais en fait, d'abord, je voudrais vous faire pointer du doigt que ce que dit Jésus est beaucoup plus important que cela. Ça va beaucoup plus loin. Parce que quand il dit, d'après Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde », on en a l'habitude. Mais normalement, qui est la lumière du monde ? Eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit lui-même, c'est Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et qui est la lumière du monde ? Eh bien, c'est Dieu lui-même, d'après le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et donc, vous voyez que tout à coup, Jésus fait un basculement assez étrange, où il ne dit plus « Dieu est la lumière » ou « Je suis la lumière », mais « Vous êtes la lumière ». Et vous comprendrez alors qu'il nous donne un rôle incroyablement important dans ce monde, qui est celui finalement de jouer nous-mêmes le rôle de Dieu. Alors ça, c'est bien de se le rappeler parce que très souvent nous récriminons contre Dieu. « Oh Dieu, donne ceci, donne cela, donne-nous ceci, donne-nous cela. » Et chaque fois que l'on fait des mariages, des enterrements, on fait des prières universelles avec des successions de demandes et de réclamations à Dieu de plein de choses. Et je suis toujours mal à l'aise quand j'entends ça. Parce que j'ai tendance à dire, écoutez, c'est un peu facile de dire à Dieu, allez, enlève la pauvreté, apporte de la paix au monde, etc. Et vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Eh bien oui, il serait peut-être pas mal de changer parfois notre état d'esprit. Et c'est bien de prier Dieu, mais au moment où vous priez Dieu, demandez-vous toujours ce que je demande là à Dieu, comment puis-je moi l'apporter au moins en partie pour ceux qui sont autour de moi ? Parce que Dieu n'est pas là pour faire les choses à votre place. Ça, ce serait tomber dans l'une des plus graves tentations, qui est l'une des trois de Jésus au désert, lorsque le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi du sommet du temple et puis Dieu te ramassera », c'est-à-dire « Laisse-toi aller et Dieu fera tout à ta place ». Eh bien, Jésus refuse cela et il a raison. Et donc voilà simplement déjà une bonne indication du chemin que nous pouvons essayer de trouver dans notre vie. Je ne dis pas que vous deviez vous prendre pour Dieu lui-même, mais tout ce que vous attendez de Dieu, qu'est-ce que vous faites vous pour l'apporter aux autres à votre niveau, à votre niveau et comme vous le pouvez. Parce qu'il est évident que nous sommes la lumière du monde, même Jésus en dit plus que moi. Moi je dis vous êtes une lumière dans le monde, Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Je ne voudrais pas quand même prêcher une sorte de théologie athée et purement humaniste, en disant, après tout, Dieu ne donne rien au monde et c'est à vous, humains, d'apporter ce que Dieu doit apporter. Je pense que Dieu peut apporter beaucoup, mais ce serait l'objet d'une autre prédication. En tout cas, pour l'instant, rappelons-nous qu'au lieu de toujours déplorer, nous plaindre et réclamer, certes, plaignons-nous et réclamons auprès de Dieu, mais en même temps, tout ce que nous voudrions que Dieu fasse, que nous puissions à notre tour le faire, parce qu'il ne le fera pas forcément à notre place. Mais continuons dans ce texte assez curieux, parce que tout cela est encore plus vrai qu'on ne pense. En effet, il dit « Vous êtes la lumière », mais de quelle lumière s'agit-il ? Alors j'ai cherché un peu dans la Bible toutes les références, chaque fois qu'il est question d'allumer une lampe, et on trouve des centaines de références. Des centaines de références, toutes, sauf peut-être une ou deux, où il est question d'allumer la lampe qui était dans le Saint des Saints du Temple de l'Éternel, et avant dans la tente de la rencontre devant l'Arche d'Alliance. Et donc il y avait là une lampe, une bougie qui était allumée en permanence, qu'on mettait sur un chandelier, que vous connaissez bien, parce que le mot « chandelier » ici en grec dans le texte, si on le traduit en hébreu, un chandelier, ça se dit « menorah » en hébreu. Donc ça, vous commencez à comprendre que peut-être qu'il s'agit d'une lumière encore plus sacrée que celle à laquelle on pensait. Et donc ce qu'il dit, c'est que nous devons être la lumière qui allume le chandelier sacré de la menorah. Alors, du coup, il faut se demander à quoi il servait ce chandelier. Ce chandelier, vous disais-je, on le lit dans le livre de l'Exode, qu'il explique très bien qu'il fallait allumer une bougie qu'on mettait sur un chandelier, une menorah, pour éclairer l'Arche d'Alliance. Alors, je dirais déjà, premier renversement assez étonnant, dans l'ancienne piété antique, on disait « il faut que votre lumière éclaire l'Arche d'Alliance », c'est-à-dire éclaire Dieu en quelque sorte. Et là, Jésus ne dit pas « allumez votre lampe pour éclairer Dieu », mais « allumez votre lampe pour éclairer le monde ». Il y a là un premier changement considérable, parce que même dans mon enfance, où parfois j'ai entendu des catéchismes effroyables, moralisateurs que l'on fait aux enfants, et on dit aux enfants « fais ceci, ça fera plaisir au bon Dieu ». Ou alors on dit aux enfants « quand tu fais le mal, tu sais, tu fais de la peine à Jésus hein ». Eh bien, cette théologie est insupportable, je vais vous dire. Je n'aime pas ça du tout. Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour faire plaisir au bon Dieu, ni pour faire plaisir à Jésus. Et les enfants, on ne leur demande pas de ne pas faire de bêtises pour éviter de faire de la peine à Jésus. Et donc là, Jésus explique bien que la lumière que nous devons être, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, c'est pour éclairer le monde. Ça, c'est le vrai critère. Ce que vous faites, est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça fait du mal ? Est-ce que ça éclaire votre frère, votre sœur, votre proche, ou est-ce que ça le plonge dans la ténèbre, dans la tristesse, dans l'angoisse, ou pas ? C'est ça le vrai critère. Et donc, vous voyez, je pense que la morale n'est pas, comme le disait le philosophe Kant, un impératif catégorique, si vous voulez, qui nous tomberait d'en haut, et comme s'il y avait le bien et le mal qui étaient précédant toute chose. Mais le bien et le mal, c'est une morale empirique. Ce qui est bien, c'est ce qui fait du bien. Ce qui est mal, c'est ce qui fait souffrir. Et c'est tout. Et donc, votre lumière, là, arrêtez de vous demander si ça fait du bien au bon Dieu. Mais demandez-vous si ça fait du bien à votre prochain. Et là, vous aurez un chemin de la vérité peut-être beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul aussi, vous savez, dans ce célèbre verset, quand on lui demande si on a le droit de faire ceci ou faire cela, il dit « écoutez, tout est permis ». Mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'est pas constructif, tout n'édifie pas. C'est ça la question. Et il y a donc là un enjeu pragmatique, je dirais, de savoir est-ce que ce que je fais, ça éclaire les autres ou pas. Bon, alors cela dit, les Juifs ont évidemment prêchent la même chose, pour tout vous dire. Parce que certes, dans l'Exode, on dit que la menorah est faite pour éclairer l'Arche d'Alliance, mais en fait, dans le Talmud, ils expliquent que cette lumière de la menorah, Elle n'est pas tellement pour éclairer l'Arche d'Alliance, mais elle est pour éclairer le monde. Donc voyez, Jésus ne l'a pas inventé, ça, le Talmud le disait avant lui. Et même ils expliquent, ce qui est assez beau, que s'il y a des fenêtres dans le temple, ces fenêtres, contrairement aux fenêtres de nos maisons qui servent à faire entrer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, sont des fenêtres qui marchent à l'envers. C'est-à-dire que toutes les fenêtres du temple sont faites pour que les gens de l'extérieur puissent voir la lumière qui est à l'intérieur du temple. Et donc il s'agit effectivement d'éclairer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais néanmoins, là où Jésus est quand même très révolutionnaire, c'est que pour les Juifs, la menorah, c'est le sacré même, c'est la parole, c'est la Torah qui doit éclairer le monde. Et là, il ne dit pas la parole, la Torah et la lumière qu'il faut qu'elle transparaisse et éclaire le monde. Elle dit, c'est vous la lumière du monde. Et donc, autrement dit, vous êtes la menorah du monde. C'est vous qui l'êtes. Et ça, c'est un rôle incroyablement sacré. Incroyablement sacré. La menorah, le chandelier à 7 branches du temple, est tellement sacré que dans le judaïsme, on n'a même pas le droit de le reproduire. Donc voyez, chez vos amis juifs, d'ailleurs, il y a des chandeliers pour Hanouka, ils n'ont jamais 7 branches. Ils peuvent en avoir 5, ils peuvent en avoir 6, ils peuvent en avoir 8, ou 9, ou 10, jamais 7. En général, d'ailleurs, ils en ont 8 plus 1, 9, mais pas 7. Parce que c'est trop sacré. Et là, Jésus dit, allez, arrêtez de ces histoires de sacré et de pas sacré. Vous êtes la chose la plus sacrée au monde, et c'est vous qui êtes la menorah sacrée. Et ça, Paul le dit lui-même, d'ailleurs, quand il dit, de la même manière, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc, nous sommes la lumière du monde, dans la mesure où nous acceptons ce rôle infiniment sacré d'être l'intermédiaire, je dirais, entre la présence pure de Dieu qui est l'Arche d'Alliance et le monde, et c'est nous qui sommes en regard de ces deux réalités. Un œil sur la présence de Dieu, sur l'Arche d'Alliance, sur les tables de la loi, sur la parole, et l'autre œil sur le monde, et nous faisons le lien entre ces deux réalités-là, et nous pouvons le faire parce que, et si seulement, cette lumière réside en nous. Cette lumière réside en nous. Parce qu'en effet, pour que cette lumière brille, encore faut-il l'allumer. Ça, c'est explicite dans le texte, et pas moi qui l'invente. Il dit « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau ». Et donc, oui, première chose, c'est d'allumer la lampe. Avant de prétendre illuminer les autres, quelle source avons-nous de lumière dans notre vie ? Et on ne peut pas prétendre être soi-même une lumière dans le monde si nous n'avons pas nous-mêmes une source de lumière. Parce que nous ne sommes pas vraiment des lumières. En fait, nous sommes comme la lune qui reflétons une lumière que nous recevons. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et donc, j'avais tout à l'heure une théologie très active en disant « vous devez apporter de la lumière au monde ». Et je dirais « mais avant, essayez déjà d'avoir un peu de lumière pour vous ». Et malheur à celui qui prétend n'avoir besoin de rien recevoir, à celui qui prétend qu'il en sait assez, qu'il n'a pas besoin ni de prier, ni de réfléchir, ni de lire la Bible, ni de se réunir dans des assemblées saintes comme cela, en pensant qu'il a suffisamment de lumière en lui. Ça, c'est très dangereux, parce qu'on risque de se vider de son sens, de se vider de sa propre lumière, et de se vider même de toute capacité à donner. Et il faut dans notre vie une méthode de ressourcement. Il faut dans notre vie une source, une station d'essence, je dirais, pour nous regonfler et être capable de redonner aux autres. Celui qui n'aurait pas cette origine première de cette source, de ressourcement intérieur, en se mettant en contact avec la réelle lumière du monde, qui est Dieu et le Christ, il serait comme un bateau sans moteur lancé sur son air qui, oui, avance un petit peu au départ avec son élan et qui finit par aller n'importe où et par se fracasser au gré des tempêtes. Parce qu'en effet, là, je vous ai dit de faire attention à la différence entre Matthieu et Luc. Et il y a une vraie différence, c'est que Luc dans le parallèle de ce passage, ne dit pas « vous êtes la lumière du monde », mais il dit que nous devons faire attention de garder cette lumière et de ne pas l'enterrer sous le boisseau. Il dit « vous avez reçu une lumière ». Et cette lumière, ne l'enterrez pas sous le boisseau, sous un vase ou sous le lit. Et en fait, Luc va moins loin que Matthieu. Luc dit juste, vous recevez une lumière, et qui est la parole, parce que la lumière, c'est la parole, cela nous le savons. C'est ce que dit l'évangile de Jean dans son prologue. Il dit, au commencement était la lumière, ou était la parole, et cette parole était la lumière qui éclaire tout homme. Et donc pour Luc, nous recevons cette lumière qui est la parole de Dieu, parole de l'Évangile, et aussi parole intime qui nous dit dans notre cœur que nous sommes aimés, pardonnés et graciés. Et donc cette lumière que nous avons, Luc dit, attention à ne pas l'étouffer. Donc d'accord, mais en même temps, donc Matthieu va plus loin en disant, cette lumière que vous recevez par la parole, vous devez l'incarner vous-même. Et donc il s'agit en plus d'être soi-même la lumière du monde. Et puis, je terminerai sur ce petit paragraphe en revenant sur la menorah. Si vous êtes la lumière du monde et que vous devez recevoir cette lumière, la menorah a 7 branches, comme les 7 jours de la semaine. Ça veut dire qu'il faut que tous les jours de la semaine, la lumière soit allumée, que tous les jours de la semaine, on soit réceptif à cette parole et qu'on ne la laisse pas s'éteindre. Mais tiens, à propos, qu'est-ce qui risque d'éteindre cette parole, d'éteindre cette lumière, d'éteindre ce souffle extraordinaire de la présence de Dieu dans notre vie, qu'est-ce qui risque d'éteindre notre capacité à rayonner dans le monde? Eh bien, Matthieu dit qu'il ne faut pas le mettre sous le boisseau. Et c'est là où j'ai fait une découverte qui m'a intéressé, c'est que dans un groupe d'études bibliques, une fois, on lisait, et d'autres avaient une traduction un peu plus contemporaine, et mettaient, on ne met pas une lampe sous un seau, c'est-à-dire sous un réceptacle. Et d'autres avaient boisseau, ce qui est le terme original. Et on me dit, c'est quoi un boisseau? Alors ça, je le savais. J'ai dit, un boisseau, c'est une mesure de volume, c'est une mesure de grain. Je crois que ça fait un peu plus de 10 litres, en fait. Et tout à coup, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut éteindre la lumière? Eh bien, c'est une mesure. Et peut-être qu'effectivement, il y a là un danger dans la transmission de la parole ou dans le témoignage, lorsque nous faisons les choses d'une manière trop rigoureuse, l'excès de règles, l'excès de comptabilité, l'excès de normes peut tout stériliser. Et effectivement, la lumière, elle a besoin de liberté pour s'exprimer. Et ça, je suis très heureux de prêcher dans une église chrétienne qui justement met la liberté et la responsabilité comme quelque chose d'essentiel, parce que je crois que l'excès de règles, de calculs, de mesures, de commandements peuvent étouffer la lumière. Et donc oui, et c'est vrai d'ailleurs aussi dans notre société où la créativité, l'inventivité est souvent étouffée par des normes, par des obligations, par des jugements, et dans notre vie aussi. Il faut prendre garde que cette lumière, cette folie de l'Évangile ne soit pas étouffée par des condamnations, par des calculs, par des mesures du bien et du mal. Il y a là un vrai danger. Et donc prenez garde que cette lumière qui est la vôtre, débarrassez-la de toute obligation, je dirais, et prenez cette parole de l'Évangile en totale liberté et acceptez de même l'interpréter d'une façon qui ne soit pas rigoureuse. Parce que c'est le danger de nos prédications très, très, très étudiées. Certains auditeurs disent, mais alors, tout ça, je n'aurais jamais pu le trouver, et si je lis la Bible, je risque de me tromper. Eh bien, arrêtez d'avoir peur de vous tromper. Et justement, ne laissez pas la lumière de l'Évangile s'étouffer sous un boisseau, sous des règles, mais sentez-vous libre d'écouter cette parole et de vous laisser éclairer par elle. Sentez-vous libre même de vous tromper dans la lecture de l'Écriture, de vous tromper dans votre foi, mais s'il y a la lumière, alors vous êtes dans le bon sens. Alors Luc lui, ne met pas le mot boisseau, il met, on ne met pas le chandelier qu'on allume sous un vase. Et là encore, pour ceux qui ont un peu de culture biblique, le vase, c'est un mot technique du culte de l'Ancien Testament, c'était les vases sacrés qui servaient au rite des Juifs, les vases de purification dont on parle dans les noces de Cana, par exemple. Et donc je crois que Luc, avec un autre mot, redit la même chose, c'est que cette lumière de l'enthousiasme de l'Évangile, de la joie d'être sauvé, elle risque d'être étouffée par les rites. Et là aussi, je suis heureux d'être dans une église qui n'a pas trop de rites. Parce que les rites ont du bon, il en faut un peu, mais les rites ne sont pas la vie chrétienne. Et les rites risquent toujours d'étouffer la lumière, l'enthousiasme, la vie et la joie qu'il peut y avoir dans la religion. Il y a un danger du ritualisme, un danger même dans nos églises, dirais-je, du droit canon, un danger de la discipline de l'église, de la constitution de notre église. Tout cela sont des risques, des choses qui risquent d'étouffer la lumière de la bonne nouvelle, de la parole partagée. Et donc j'assume que parfois je transgresse la discipline de notre Église protestante unie, et j'en suis extrêmement heureux. Je ne devrais pas, mais je crois que pour mieux accueillir quelqu'un, pour mieux témoigner à mon frère, pour mieux partager cette bonne nouvelle de l'Évangile, si je dois le faire malgré l'avis des conciles, des synodes et tout ça, eh bien je le ferai. Parce que je ne pense pas que la lumière de l'Évangile doive être étouffée par les vases, fût-il sacré, de nos règlements intérieurs. Alors ensuite, Luc continue en disant « On ne met pas non plus la lumière sous un lit ». Alors là, peut-être est-ce le contraire. Le lit, c'est tout le contraire. Le lit, c'est le repos, c'est l'abandon. Peut-être est-ce l'autre danger qui menace le fait de briller et de cette lumière. C'est l'autre danger de ne rien faire, de tout laisser faire. C'est l'indolence, la passivité. C'est le danger de l'inaction, le danger de l'abandon. Et ça aussi, c'est dangereux. Cette lumière, on ne doit pas la laisser en se disant « elle éclairera d'elle-même ». Il faut vraiment quand même faire le geste de la prendre et de la mettre sur le chandelier. Et donc il y a les deux dangers extrêmes, je dirais l'un de l'excès de rigueur et l'autre d'un excès de pas assez de rigueur, dirais-je, pour comment on dit, enfin, d'un abus d'abandon lorsqu'il n'y a plus rien, plus aucune rigueur, aucune règle, aucune volonté de se reprendre soi-même en main. Il y a un danger que la lumière aussi s'éteigne. Et puis enfin, j'ai une dernière idée, mais je pense que ce que je viens de vous dire, je pense que c'est juste du point de vue théologique. La dernière idée, c'était ce qui m'était venu au départ, je vous le livre en dessert, c'est que moi je suis un esprit pragmatique et simple, et donc je me suis dit, mettre un bougeoir sous un seau ou sous un vase, bon, le risque c'est qu'il s'éteigne, c'est vrai, il va s'étouffer. Maintenant, si vous mettez un chandelier sous un lit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça ne va pas éteindre le chandelier, ça va mettre le feu au lit. Probablement, surtout que c'était des paillasses, un lit en paille. Ça ne va pas éteindre la lumière, ça va faire un incendie. Et du coup, je me dis, tiens, ben, y a là encore une autre dialectique entre les deux dangers de cette lumière de l'Évangile, qui est l'une l'étouffoir et l'autre l'exaltation mystique. L'un, on éteint la lumière, et l'autre, ça devient un feu qui embrase la maison. Et je pense que dans la religion, il y a toujours ces deux dangers aussi. Le danger d'oublier la lumière et de la laisser progressivement s'éteindre comme une vieille bougie qui finit par ne plus que fumer, et ça n'apporte rien à personne. Et l'autre danger, c'est celui de la folie de la religion. Ceux qu'on appelait au XVIe siècle les enthousiastes, et contre lequel Luther s'est battu d'ailleurs. L'enthousiasme parfois même des nouveaux convertis, qui deviennent obsédés par Dieu, qui jugent tout par Dieu, qui font tout par Dieu, qui cherchent dans la Bible les règles pour savoir comment vivre, s'il faut accepter ceci ou cela, si on a le droit de fumer ou de ne pas fumer, si on a le droit d'accueillir les homosexuels ou non. Ceux qui cherchent tout dans la Bible, et dès qu'ils sont sur la route, si le feu est rouge, en roulant, ils disent « Oh, merci Seigneur pour ce feu rouge qui me permet de me reposer une seconde. » Et quand le feu est vert, « Oh, merci Seigneur pour ce feu vert qui me permet d'avancer. » Ceux qui prient pour savoir s'ils doivent déménager dans le 8e arrondissement ou dans le 9e, eh bien tout cela met le feu à leur paillasse. Et que la lumière de Dieu, la lumière de la foi, la place même de la religion, doit être à sa juste place dans notre vie. Voilà, ni sous un seau, ni pour mettre le feu à la paillasse, la lumière doit être sur le chandelier, c'est-à-dire à sa juste place. Et ça, je crois que c'est très important de mettre la religion à sa juste place, de mettre Dieu à sa juste place. S'il y a trop de Dieu dans votre vie, il n'y aura plus d'homme. S'il y a trop d'homme, il n'y aura plus de Dieu. Et donc, il faut mettre Dieu à sa juste place sur le chandelier, sur la menorah que nous sommes nous-mêmes appelés à être, c'est-à-dire comme ceux qui sont les porteurs d'une lumière, non seulement parce que nous recevons nous-mêmes cette lumière et parce que nous voulons allumer cette lumière pour le monde. Et nous sommes donc des transmetteurs de lumière, à la fois illuminés par une parole et par une présence, et appelés aussi à illuminer un monde qui a bien besoin de lumière. Et je crois que c'est là les deux plus grands secrets du bonheur de la vie, c'est-à-dire d'avoir une source extérieure de bonheur pour soi, qui est la présence de Dieu, et une source invincible de bonheur, qui est de savoir donner. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner, que de transmettre, et bien des gens dans ce monde souffrent, alors qu'ils ont tout, parce qu'ils ne savent pas donner. Voilà, donc c'est très simple. Mais il faut les deux, et donc l'Évangile nous dit bien cela. Nous sommes au bénéfice de cette lumière du monde qu'est le Christ, merci Seigneur. Et lui-même nous dit, vous êtes à votre tour la lumière du monde. Une deuxième fois, merci Seigneur, parce qu'il y a là le secret du bonheur, puisque ce texte est juste après les béatitudes, dans Matthieu, et c'est aussi le secret de la vie. Amen.